L'Institut Montparnasse est un think and learn tank et une de nos missions est de réfléchir à l'avenir du mutualisme. Nous avons eu l'occasion d'accueillir une grande diversité d'invités sur nos podcasts. Parmi ceux-ci, des mutualistes bien sûr, mais aussi des grands témoins de l'économie sociale et solidaire, des penseurs, des universitaires, des hommes politiques de France et à l'international. L'ESS se veut un terrain d'innovation face aux problématiques sociales, un espace de débat autour des questions de société. Et dans cet engagement, nous allons chercher des acteurs de la société civile, des territoires, mais aussi des professionnels afin de relayer les bonnes pratiques et les idées inspirantes. C'est dans ce cadre que nous accueillons aujourd'hui Mélissa Boud pour parler de Dionicop, une épicerie anarchiste. Je suis anarchiste. L'anarchisme représente la libération de l'esprit humain de la domination de la religion, la libération du corps humain de la domination de la propriété, la libération des chaînes et des restrictions imposées par le gouvernement. Ce ne sont pas mes mots, mais ceux d'Emma Goldman qui donnait cette définition dans Anarchisme, What It Really Stands For, un essai qui influença le jeune punk que je fus. Cette définition, elle me semble résolument moderne et elle me permet d'introduire les travaux de Mélissa Boud. Mélissa Boud, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter vos travaux ?
Donc, je suis enseignante-chercheuse en sciences de gestion à l'Université du Mans. Je mène des travaux sur les coopératives et les innovations sociales qu'elles portent. Donc, par exemple, j'ai travaillé sur les coopératives d'activité et d'emploi qui proposent une forme assez innovante de travail. Et donc, j'étudie depuis 2 ans maintenant la coopérative Dionicoop située à Saint-Denis, à Paris.
Comment en êtes-vous venu à travailler sur l'exemple de Dionicoop ?
Alors, il y a un des fondateurs de Dionicoop qui a fait connaissance d'une collègue de Paris-Saclay lors d'une conférence et qui lui a proposé de venir étudier le fonctionnement de ces épiceries un peu particulières. Donc, elle nous a fait cette proposition de collaboration en réunion de laboratoire et on a été quelques-unes et quelques-uns à répondre à l'appel.
Alors, vous parlez d'une épicerie un peu particulière. En partant des définitions de l'anarchisme, en quoi Dionicoop est-elle une épicerie anarchiste et en quoi ça la rend différente d'une épicerie coopérative ?
Alors, Dionicoop, elle repose vraiment sur une philosophie anarchiste dans la mesure où elle répond à 3 principes anarchistes, donc l'autonomie, la solidarité et la responsabilité. Il y a aussi derrière une dynamique qu'on appelle de préfiguration, c'est-à-dire on va expérimenter les idéaux sur le terrain, les mettre en œuvre, les incarner dans le quotidien, dans toutes sortes d'activités. Donc ça permet de définir voilà, Dionicoop déjà comme une épicerie anarchiste. Et ensuite, ce qu'on a aussi identifié, c'est qu'il y a une forme de leadership dit autonomie, c'est-à-dire qu'il y a une forme collective de leadership. Il est spontané et puis il est mouvant. Voilà, il n'est pas entre les mains d'une petite poignée de personnes. Donc, par rapport à, pour répondre à la question, ce que je viens de décrire, finalement, on peut se dire ça ressemble beaucoup à ce qu'on peut observer dans d'autres coopératives. Cependant, dans Dionicoop, il n'y a pas de statut juridique parce qu'il y a ce refus justement de formalisme. Donc, il n'y a pas d'instance de prise de décision, pas d'assemblée générale, pas de conseil d'administration, etc. Elle s'appuie seulement sur l'association d'université, qui était l'association qui portait l'université populaire dans la ville de Saint-Denis. Donc ça, c'est seulement pour les démarches, payer les loyers des épiceries, etc. Et puis ensuite, en termes de fonctionnement, il fonctionne très simplement par échange de mails. Voilà. Donc ça, c'est assez différent de ce qu'on peut observer même dans des petites épiceries coopératives. Voilà. Donc une dernière chose aussi, c'est vraiment le maître mot au sein de Dionicoop, ça va être la liberté. Chacun et chacune est libre de participer comme et quand bon lui semble, contrairement voilà, à certaines coopératives aussi de consommation qui réémergent ces dernières années, et où il y a en général une obligation de bénévolat.
J'ai cru comprendre à la lecture de vos travaux qu'on avait toute une partie qui était axée sur les tensions qu'on peut rencontrer dans cette structure. Moi, je voulais savoir quelles sont les différentes tensions qu'on peut rencontrer au sein d'une structure comme Dionicoop et puis comment et pourquoi est-ce qu'elles apparaissent ?
Donc, on a effectivement identifié un certain nombre de tensions, finalement, qui recoupaient assez les tensions qu'on peut retrouver dans les coopératives, les mutuelles, les associations, dans l'économie sociale et solidaire. Donc, on s'est appuyé pour ça sur les travaux de Luc Hotbrand, le chercheur canadien, qui identifie quatre grandes familles de tensions, les tensions d'organisation, par exemple hiérarchie versus démocratie, les tensions d'appartenance, communauté versus individualité, les tensions d'apprentissage, alternative versus courant dominant, et les tensions de performance, donc entre un objectif social et un objectif économique. Et on retrouve ces tensions aussi au sein de Uni Coop, elles n'y échappent pas. Ces tensions, elles sont liées au fait que ce sont des organisations alternatives comme des structures de l'économie sociale et solidaire. Donc forcément, elles s'inscrivent dans une dynamique à contre-courant de l'environnement dans lequel elles agissent. Et puis en interne, elles sont hybrides. Elles ont à chaque fois une activité qui a une dimension économique ou une volonté de pérennité et en même temps un projet social, politique qui peut être plus mouvant en fonction des personnes qui passent dans le collectif, des envies de chacun et chacune.
Alors est-ce que ces tensions, elles sont inhérentes à Uni Coop ou elles apparaissent dans toutes les structures démocratiques comme pour les mutuelles de santé par exemple ?
Oui, elles sont les tensions finalement consubstantielles des organisations alternatives de l'ESS. Donc on peut les trouver, même si les mutuelles, elles se sont institutionnalisées depuis longtemps, elles restent des organisations alternatives, finalement, dans le monde économique dominé par les entreprises à but lucratif. Donc, par contre, est-ce qu'il faudrait... Le terme de tension, il peut faire peur. On peut penser qu'il faut les combattre. Et en fait, quand on lit les travaux notamment de Léa Dorian, on voit qu'au sein des... Elle a étudié plutôt les organisations féministes et elle nous invite à repenser ces tensions et à les considérer au contraire comme une source de vitalité pour les organisations. Et c'est aussi ce qu'on a pu observer chez Uni Coop.
Il y a aussi quelque chose qui me paraît, qui m'a sauté aux yeux à la lecture de vos travaux, c'est le paradoxe qu'il peut y avoir entre une structure sans hiérarchie et puis une autorité historique des fondateurs qui semblait être source de tension. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Oui, il y a vraiment une tension qu'on peut dire, tension paradoxale finalement par rapport à ce rapport au leadership, à la direction, parce qu'effectivement, l'initiative de créer ces épiceries, elle est partie d'un petit groupe de militants anarchistes de Saint-Denis. Donc, ils bénéficient, ces fondateurs-là, d'un certain leadership. Leur parole va compter un petit peu plus que les autres. Ils vont avoir une attention particulière de la part des autres membres. Mais ce qu'on observe, c'est qu'ils vont freiner leur prise de parole, justement, pour laisser le champ libre aux autres membres de... pouvoir s'exprimer, avancer des idées, prendre des décisions, etc. Et donc, on assiste parfois à des choses assez intrigantes. Pour vous donner un exemple, il y a des discussions autour notamment de l'usage de l'informatique qui est perçu par ses fondateurs comme source potentielle de centralisation du pouvoir, parce qu'il faut bien sûr pouvoir maîtriser ses outils, s'en servir, ce qui n'est pas accessible à toutes et tous. Et donc ils se sont un petit peu imposés sur ce sujet. Voilà, ils ont fait preuve d'un certain leadership pour imposer finalement l'usage vraiment très minimaliste des outils. Comme je vous disais, ils reposent beaucoup sur l'utilisation des mails. Ils refusent d'ouvrir par exemple un compte en ligne, un accès en ligne à la banque, etc. Et donc ça s'est fait pour justement décentraliser le pouvoir finalement. Donc on voit qu'il y a un paradoxe là-dedans assez intéressant.
Bah oui, moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé donc à la lecture de vos travaux, c'est les outils numériques. Et justement, ça m'amène à une question, c'est comment les outils numériques et les méthodes d'organisation internes inhérentes à Uni Coop, elles influencent la gestion des tensions ?
Alors, c'est encore une fois, ils ont fait un choix très très intéressant qui nous questionne aujourd'hui parce qu'on est en 2024 et on est entouré de numérique dans tous nos faits et gestes. Et pour leur part, ils ont choisi un outillage très sobre, très simple, en faisant le pari que justement ça allait permettre un plus grand accès à l'action de chacun et chacune des membres. Donc vraiment, ce qui les motive dans leur dynamique, c'est l'expérimentation. Donc, ils testent Et ce qu'on voit aussi émerger, c'est des initiatives de certains membres qui vont proposer, par exemple, d'utiliser des Framapad, donc cet outil de logiciel libre pour justement un petit peu coordonner l'ouverture des boutiques. Donc on voit qu'il y a des choix qui sont faits, mais la liberté laissée d'aller chercher d'autres outillages. Donc encore une fois, par rapport aux tensions, c'est la liberté qui est vraiment au fondement de l'anarchisme, qui va permettre justement de gérer ces tensions de façon assez unique.
Alors on en a parlé un petit peu auparavant, il y a un débat constant, un arbitrage en fait dans la résolution des tensions. Comment est-ce que ça prend forme au sein de Unicop ?
Alors il y a ces débats donc dans la liste de mails. Donc il faut savoir que Unicop c'est trois épiceries donc dans la ville de Saint-Denis qui rassemblent chacune environ 200 membres. Donc c'est vraiment beaucoup d'hommes et de femmes qui échangent tout un tas d'informations, de bonnes pratiques, etc. via cette liste d'emails. Donc c'est aussi des rencontres informelles dans les boutiques. Les boutiques, c'est pas seulement pour aller faire ses courses, mais c'est aussi prendre un café, discuter, échanger avec les autres membres. Donc tous ces débats qui ont lieu, ils permettent effectivement... Je dirais pas, encore une fois, je n'utiliserai pas forcément le terme de résoudre les tensions parce qu'ils vivent avec, justement, c'est lors de ces échanges qu'elles émergent, ces tensions aussi. En tout cas, ils vivent avec lors de tous ces échanges informels. Donc, c'est plus que... Ce qui est vraiment important, encore une fois, ce n'est pas la finalité qui pourrait être fournir de la nourriture, des produits de qualité, mais c'est vraiment faire ensemble, se réunir, échanger. Je me rappelle qu'un des fondateurs nous disaient, mais en fait, on aurait pu très bien décider d'avoir un atelier de peinture sur soie. Peu importe finalement ce qu'on est en train de faire, le tout, c'est de faire ensemble et d'essayer d'expérimenter d'autres formes de vivre ensemble, de faire ensemble.
Donc il y a toute une partie en fait très philosophique autour de plutôt refaire du lien. Et puis en fait, finalement, l'objet de la structure, il n'est pas très très important. Voilà. Alors. Il y a des concepts d'anarchisme qu'on connaît, comme l'autogestion et le volontarisme, par exemple. Est-ce que ça peut aider à réguler, prévenir l'apparition des tensions ?
Oui, ce qu'on a observé, effectivement, c'est que les membres de Unicoop, ils apprenaient à vivre avec les tensions, à prendre des décisions, des initiatives. Pour justement gérer ces tensions, donc... Dans les travaux de recherche qu'on a mobilisés, il y a trois façons finalement de gérer les tensions. Il va y avoir l'acceptation des tensions. Et donc on a vu au sein de Unicop qu'ils utilisaient cette stratégie-là notamment pour gérer les tensions dites d'appartenance, donc inclusion versus exclusion. Donc pour être plus concrète, ces épiceries-là, on s'est aperçu que finalement, les membres de ces épiceries ne reflétaient pas du tout la population des quartiers. C'est plutôt des personnes très diplômées, des familles avec peu d'enfants ou des enfants qui ont quitté le foyer, qui sont plus à charge en tout cas des parents. Et donc, ça, c'est un constat que font les membres. Ils sont très lucides par rapport à cet état de fait. Et pour autant, ils essaient de développer des initiatives, d'aller au contact des personnes, de les amener à passer le pas de la porte de ces épiceries. Mais ils voient bien qu'il y a tout un tas de barrières à l'entrée, qu'elles soient culturelles. On n'arrive pas forcément dans une épicerie en déposant un chèque pour pouvoir alimenter un compte facilement. Donc, ils ont accepté que de vivre avec cette tension, de se dire... notre mode de fonctionnement, il n'est pas parfait, il n'est pas forcément ouvert à toutes et tous. Il a une part d'exclusion dans ce mode de fonctionnement-là. On est obligé de l'accepter. Donc voilà, ça, c'est par exemple une façon de gérer une tension, l'acceptation. Il va y avoir aussi la confrontation. Donc là, on l'a vu quand il s'est agi de développer, d'organiser un marché sur le bio. Donc là, il y a eu beaucoup de débats sur la liste de mails. C'était très intéressant pour nous d'aller décortiquer tout ça en tant que chercheurs. Donc on a vu qu'il y avait beaucoup d'échanges et finalement, une forme de décision qui a fini par être prise collectivement, d'organiser ce salon en changeant son intitulé, mais organiser un événement. Et enfin, la troisième façon de gérer les tensions, ça va être ce qu'on appelle la transcendance, c'est-à-dire avoir un niveau de réflexion qui va se placer un petit peu au-dessus de la tension. Donc ça, on l'a vu notamment quand ils se sont posé la question au moment de la fondation de ces épiceries, d'adopter des statuts juridiques ou pas. Et finalement, ils se sont dit, mais en fait, on n'en a pas besoin. Lançons-nous, justement, faisons sans, et puis on verra bien ce que ça donne. Donc ça, voilà, c'est une façon aussi de gérer les tensions. Donc on voit qu'ils utilisent tout un éventail de stratégies, et c'est ce qui est aussi, je pense, assez instructif pour l'ESS.
Alors, Jacques Rancière, dans la mésentente, il disait qu'en fait, le conflit, s'il n'est pas entre une personne, on va dire blanc, et puis une autre qui va dire noir, en fait, c'est souvent en fait, le conflit entre celui qui dit blanc et puis l'autre qui n'entend pas la même chose, parce qu'on dénomme la blancheur. Moi, quand j'ai lu tous ces problèmes de tension dans vos travaux, je me suis demandé si les tensions, elles étaient issues de problèmes de communication à Duanicop.
Intéressant. Alors, la communication, il faut savoir que encore une fois, ils utilisent très peu d'outils de communication. Tout est très informel et c'est un choix. C'est beaucoup donc, par les rencontres dans les boutiques, par les échanges de mails. Et donc là, forcément, et ça, c'est aussi quelque chose qu'on sera peut-être amené à creuser, nous, en tant que chercheurs et chercheuses, c'est que cet outil mail, il demande déjà d'être à l'aise à l'écrit, d'avoir un accès bien sûr à l'outil informatique et d'être à l'aise avec la communication écrite. Donc elle peut être excluante effectivement, elle peut représenter des barrières à l'expression de certaines personnes. Donc ça c'est effectivement quelque chose qu'il faudrait encore qu'on creuse. Sachant que encore une fois, les personnes peuvent très bien se rendre à la boutique, décider de faire des choses plus libres, mais ça peut être un des écueils.
Je rappelle quand même que vos travaux ils sont en cours, oui. Ils sont pas terminés, donc coup il y a encore certainement des choses très intéressantes à en voir dans l'avenir. Moi j'aimerais qu'on parle un peu plus de Duanicop et notamment des principes anarchistes et comment Duanicop permet à ses membres de s'incarner via des concepts de liberté et de responsabilité individuelle. Et est-ce que vous avez des exemples concrets à nous partager ?
Donc c'est vraiment ce concept qu'on appelle de préfiguration. Donc c'est incarner les idéaux qu'on peut porter, les faire vivre au quotidien. Donc Duanicop, elle, a décidé de l'appliquer dans le mode de consommation. Donc pour nombre de membres, c'est une façon de mettre en application leurs idées. Certains membres nous disaient moi j'en ai fait marre d'être dans les rayons des supermarchés avec mon caddie, de savoir que j'étais toutes mes informations étaient collectées, etc. Enfin, c'était une envie forte d'expérimenter quelque chose de différent. Et donc la liberté et la responsabilité leur permet justement d'appliquer ça. Il y a ce qu'on a aussi observé qui est très intéressant, c'est ce droit à l'erreur. Parce que pour pouvoir expérimenter, donc l'expérimentation, on en voit beaucoup, l'ESS c'est de l'expérimentation en permanence. Mais contrairement à ce qu'on observe dans des structures, disons, plus institutionnalisées de l'ESS, chez Duanicop, ce droit à l'erreur, il prend une forme très, très poussée, en fait. Pour donner un exemple concret, encore une fois, il y a la possibilité pour chacune et chacun d'acheter des produits pour alimenter les rayons des épiceries. Chacun et chacune peut devenir ce qu'on appelle un référent produit. Donc il peut y avoir plusieurs personnes qui décident d'acheter des pâtes, et puis on peut se retrouver avec beaucoup de pâtes dans les rayons, ou on peut avoir, comme on nous l'a rapporté, quelqu'un qui a envie de proposer des fleurs, parce que la personne a découvert un fleuriste, etc. Et finalement, ça ne fonctionne pas parce que les fleurs, ça fane vite et qu'il n'y a pas d'acheteur assez rapidement. Et donc, mais ça a été testé quand même. Donc, on peut, si on se trompe, c'est pas grave. On, on réitérera pas, mais au moins on a pu tester, mettre en œuvre. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de très, très fort, et je pense qui permet aussi de garder ces épiceries vivantes et dynamiques, c'est de laisser le droit aussi de faire des erreurs aux personnes.
En termes de leadership, comment est-ce qu'il s'exprime dans une structure sans hiérarchie comme Bionicop ?
Alors, le leadership, il y en a un déjà, comme je le disais, particulier des fondateurs, du petit groupe de fondateurs qui, forcément, du fait de l'histoire de la coopérative, ont une voix qui va peser un petit peu plus que les autres. Mais ils vont essayer à chaque fois d'être un peu en retrait, de laisser aussi les autres membres s'exprimer. Donc ce leadership, il est aussi mouvant parce qu'il peut y avoir d'autres personnes qui vont émerger, vouloir prendre des initiatives et vont être finalement leaders sur leur initiative, comme je disais, les référents produits, donc il y a des personnes qui s'occupent aussi de la trésorerie de chaque épicerie. Donc on peut aussi estimer que c'est du leadership, voilà, qu'il y a une forme de leadership derrière leur rôle. Donc il est très diffus, il y a vraiment une grande horizontalité. Et puis il n'y a pas d'organe de décision. Vraiment, donc il n'y a pas une personne ou une poignée de personnes, d'administrateurs ou d'administratrices, qui va prendre les décisions pour les autres. Il n'y a pas d'assemblée générale. Donc finalement, toute personne qui a envie de lancer une initiative, justement prendre une position de leadership, peut le faire.
Et du coup, en quoi les mécanismes d'autocontrôle et de contrôle par les valeurs, ils contribuent à dynamiser le collectif ?
Ça, c'est une question très, très intéressante parce qu'effectivement, il y a forcément un socle de valeurs partagées qui permet à ce collectif de fonctionner ensemble. C'est pas gagné d'avance, bien sûr. Donc pour les personnes, il y a une culture partagée qui est forte. Et pour des personnes qui voudraient rejoindre les épiceries, il faut s'assurer que voilà, on partage ce même socle de valeurs pour fonctionner ensemble. Donc il a été décidé à la suite de vols, en fait ils ont constaté des vols dans les épiceries, ils se sont dit bon, qu'est-ce qu'on fait face à ça, et peut-être que justement ils ont identifié le partage de valeurs comme peut-être un endroit où il y avait un manque. Donc ils se sont dit on va organiser des réunions d'accueil où justement on va rappeler la philosophie de Bionicop pour s'assurer que tout nouveau ou nouvel arrivant va comprendre le mode de fonctionnement, la philosophie, et du coup ne pas se voler soi-même, parce que finalement on vole le petit collectif auquel on appartient. Donc toujours, ce qui est intéressant, c'est que il y a toujours ce principe de liberté qui surplombe toutes ces initiatives. Donc ces réunions d'accueil, elles n'étaient pas obligatoires. Voilà. Contrairement à ce qu'on pourrait observer, je pense, dans d'autres structures qui auraient fait le même constat. Donc, des personnes pouvaient quand même intégrer la coopérative sans participer à ces réunions d'accueil. Et finalement, assez récemment, ces réunions d'accueil ont pris fin. Donc, on reste persuadé, nous, en tant que chercheurs, qu'effectivement, le partage d'un certain nombre de valeurs est très important. Mais pour autant, ils n'ont pas forcément mis en place, en tout cas ils sont revenus sur leur réunion d'accueil, certainement parce que aussi c'est en faisant que la culture aussi et l'acculturation se fait. Et venez voir, et voilà, ils tablent aussi là-dessus.
Je trouve ça très intéressant que justement on impute la responsabilité de ces vols à un problème de communication, d'explicitation des concepts peut-être. Alors moi, il y a une question qui me vient suite à notamment cet exemple, c'est comment est-ce que les entreprises mutualistes ou de l'ESS, les entreprises coopératives, elles pourraient s'inspirer des principes qu'on vient d'entendre, et puis pourquoi est-ce qu'elles le feraient ?
Oui, bah c'est vraiment ce qui anime la suite de nos travaux justement avec mes collègues de Paris-Saclay. Tous ces apports qui pourraient être faits pour les structures de l'ESS, donc dans les structures mutualistes. Et on est en train d'étudier notamment la dimension de la gouvernance parce que là-dessus, les structures de l'ESS, notamment lorsqu'elles ont une taille assez importante, comme les grandes mutuelles, on voit qu'il y a une baisse de la participation, de l'implication. Il peut y avoir une forme de hiérarchie importante. Et donc, on essaie de voir comment, justement, les principes, notamment de préfiguration, et puis cette idée, comme je le disais, de droit à l'erreur, peut favoriser la participation. Comment est-ce qu'on pourrait insuffler ou réinsuffler un petit peu de ce droit à l'erreur, de le droit d'expérimenter des nouvelles choses auprès des membres pour qu'ils puissent s'impliquer, se réimpliquer dans la vie de leur coopérative, mutuelle ou association.
Alors, une question qui va peut-être être un peu redondante. Quels éléments de l'étude de Dionicop vous semble porteur d'idées ou de pratiques intéressantes qui seraient susceptibles d'inspirer certaines structures de l'ESS?
Vraiment cette liberté qui est laissée et ce rapport aussi, ça c'est un autre sujet qu'on a envie de creuser aussi avec mes collègues, alors je ne sais pas si c'est le terme qu'on va utiliser, mais presque de sobriété par rapport à l'usage des outils, parce qu'on voit beaucoup d'innovation en termes notamment de gouvernance dans les structures de l'ESS, avec l'arrivée d'outils numériques, par exemple, pour favoriser les prises de décision à distance. Voilà, par exemple, ça c'est assez intéressant. Mais aussi, on voit une sorte de complexification des instances. Alors, y a des choses comme la sociocratie qui sont aussi un peu à la mode, etc. Et finalement, on voit qu'il y a des structures comme Dionicop qui peuvent être inspirantes parce qu'elles se mettent en retrait, elles font un pas de côté et essaient de ne pas développer des nouvelles choses très formalisées, etc. Mais juste de laisser faire, en fait. Donc, ça peut être inspirant à voir aussi comment on peut transposer ça dans des structures plus anciennes, plus de taille plus importante aussi, etc.
Alors, au vu du contexte actuel, on a envie de se poser la question, quelle piste d'avenir pour les organisations qui souhaiteraient intégrer ces principes dans leur fonctionnement?
Alors ça, il va falloir... ça va beaucoup de travail encore pour... On n'a pas après une volonté de normative, disons. On va certainement proposer avec mes collègues à l'avenir des pistes d'inspiration. Mais ça, chaque structure est tellement particulière, on ne peut pas faire une généralité à partir des épiceries de Dionicop sur l'intégralité. Elles ne sont pas représentatives de toutes les structures anarchistes, il y a vraiment un large éventail de modes de fonctionnement anarchistes. Par contre, ce qui est intéressant en allant creuser sur un terrain comme celui-là, c'est d'aller faire ressortir des dynamiques, des modes de fonctionnement particuliers. Pour inspirer. Donc on espère qu'il pourrait y avoir un dialogue qui se crée, mais ça nous demandera encore un peu de travail.
Merci beaucoup Mélissa. Alors, un livre, un film, un podcast, c'est la question qu'on pose à chaque fois aux personnes qu'on interview. Est-ce que vous auriez une recommandation pour nos auditeurs pour bâtir un futur solidaire ou alors un guide pour s'aventurer vers l'avenir?
Alors, au tout début de ce podcast, citiez Emma Goldman. Et donc j'ai envie de continuer sur la lancée en suggérant la lecture de Lettre à l'amant qu'elle a écrit justement, donc pour rester sur l'anarchisme mais ouvrir au-delà des sciences de gestion sur la sphère plus intime. Voilà. Et j'en profite pour remercier donc toute l'équipe de chercheuses et de chercheurs avec qui je travaille sur Dionicop. On a été soutenus donc par la Graduate School Économie et Management de Paris-Saclay. Et on est donc une petite équipe de 8 chercheurs avec Annie Banikemasso, Marcol Jossou, Christelle Perrin, Nicolas Praquin, Philippe Jacquinot et Cédric Gossard et Anne Janon. Je souhaite aussi remercier donc Isabelle Desrumes qui est donc la chercheuse qui nous a mis en contact en premier avec Dionicop et bien sûr tous les membres de Dionicop qui nous ont accueillis à bras ouverts.
Nous espérons que cette discussion a été enrichissante pour nos auditeurs. Restez à l'écoute pour de futurs épisodes sur des sujets passionnants. Merci Mélissa Boud.